Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui sur la radio Sigma pour la première édition de l'émission Alpha et Oméga. Donc cette émission est présentée par moi-même, Agathe, et je suis entourée aujourd'hui de Colombe, Laure, Charlie et Gabriel. Donc comment vous allez ?
Salut, ça
super,
va très bien et toi ?
Très bien.
Bah moi personnellement ça va, donc je vais vous présenter le déroulement de l'émission. Donc tout d'abord on va avoir une partie 1 qui va parler du sport et du sexisme, avec la première partie qui sera présentée par Colombe, donc les différences de médiation. Ensuite, une autre partie présentée par Laure, les inégalités salariales. Donc, ensuite, on partira sur une deuxième partie, l'économie du sport, qui sera présentée par Gabriel et Charlie.
C'est moi.
Donc, après, on partira sur une deuxième partie, donc sur les jeux vidéo et les théories du complot. Donc, on va repartir sur le sexisme, donc dans le sport. Et Colombe, on t'écoute.
En effet, moi, je vais vous présenter la différence de médiatisation entre les sports masculins et féminins. Nous allons commencer en prenant, par exemple, le cyclisme. Tiens, est-ce que vous saviez qu'il existe un Tour de France féminin ?
Alors oui, je le savais, mais je ne l'ai pas... Enfin, je le savais, mais je... c'est pas médiatisé. Pour moi, ce n'est pas médiatisé. Pour moi, je ne l'ai jamais vu à la télé, mais je l'ai su. J'ai su un moment, parce que mon père me l'a dit, je ne sais plus quand, mais je l'ai su, oui.
Moi, je ne savais
aucune
pas
idée.
Non plus.
Bah, tu as tout à fait raison, il n'est que très peu médiatisé, on en reparlera juste un peu plus tard.
D'ailleurs, les Français sont très forts dans cette discipline. Les Françaises.
Ouais. Moi, personnellement, je ne savais pas avant de faire cet article, je vous avoue. Donc, en fait, le cyclisme masculin, tout comme le football masculin, c'est les deux sports les plus médiatisés, on s'en doute. Le Tour de France, il est retransmis à la télévision, à la radio, mais qu'en est-il de celui des femmes ? Bah, c'est une bonne question, parce qu'il ne l'est absolument pas. Les vrais moments où le sport féminin est médiatisé au même titre que ses homologues masculins, en fait, ça correspond simplement aux grandes compétitions internationales, comme les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde ou encore Roland-Garros, mais c'est tout, ça s'arrête là. Hormis cela, les sportifs sont médiatisés que sur des chaînes payantes comme Canal+, ou encore RMC Sport, mais que à des plages horaires très peu fréquentées. Et est-ce que vous saviez que jusqu'en 1914, les femmes n'étaient autorisées ni à être membres d'un club de sport, ni à prendre part à toute sorte de compétition sportive ?
Je m'en doutais.
Ça, je ne le savais pas. Mais je pense qu'on pouvait en déduire avec toutes les inégalités des sexes qu'on subit en ce moment. Enfin, que je ne subis pas, mais que le monde subit. Donc, ça me paraît logique, mais je ne le savais pas précisément.
Ouais.
Moi non plus.
Oui, parce que en effet, le sport a longtemps été considéré comme un loisir réservé exclusivement aux hommes que les femmes n'avaient pas le droit de pratiquer. Mais malgré tout, le sport féminin est de plus en plus médiatisé ces dernières années. En 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que 93% de la médiatisation télévisuelle du sport concerne le sport masculin, alors que la place du sport féminin n'occupe que 7% du volume horaire de diffusion de retransmissions sportives. Mais 5 ans plus tard, elle est estimée entre 16% et 20%. Et en 2014, la Fédération française de football comptait près de 75 000 femmes licenciées. Mais après la retransmission de la Coupe du monde féminine de football en 2015, elles étaient plus de 100 000. Mais bon, pour conclure, malgré ces hausses des audiences, les sports les plus médiatisés restent quand même les sports masculins. Donc voilà, j'ai terminé. Je te repasse la parole, Agathe.
Bien, merci beaucoup, Colombe. Est-ce que vous auriez quelque chose réagir sur ce que vient de nous dire Colombe ?
Bah moi, je suis pas effaré, mais je suis étonné. Je suis étonné parce que, en fait, je suis étonné, mais en même temps, je suis pas étonné parce que ça me paraît logique, mais c'est illégal,
c'est
pas normal. Oui, voilà, c'est logique, mais pas normal.
C'est aberrant.
C'est aberrant, voilà, c'est le mot qui me vient à la bouche.
Oui.
Bah, en fait. D'une part, je suis très triste parce que les femmes mériteraient d'être beaucoup plus médiatisées que ça. Mais d'un autre côté, il faut se dire que ces dernières années, quand même, ça remonte. Les scores d'audience de sport féminin remontent vraiment et que ça compte qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer comme ça.
Mais je suis tout à fait d'accord avec Colombe. C'est vrai que sur ce coup-là, même si on monte tranquillement et doucement sur la courbe, on va dire, de l'investissement féminin dans le sport, ça monte, mais pour moi, c'est pas assez.
Oui, donc il faut quand même se dire que c'est en amélioration.
C'est en amélioration, oui, c'est ça.
Donc pour poursuivre, Laure va nous présenter les inégalités salariales dans le sport.
Oui, tout à fait. Donc, bien sûr, il n'y a pas que dans le sport qu'il y a des inégalités salariales, mais dans le sport, c'est particulièrement visible. Prenons l'exemple du football. Un homme en Ligue 1 gagne en moyenne 50 000 euros face à 3 000 euros pour une femme. Si on parle du rugby, c'est encore pire puisque les femmes ne sont considérées que comme des amateurs, donc aucune rémunération. En plus des entraînements, les joueuses sont donc contraintes de travailler. Pour le basket, le handball ou encore le volley, c'est la même chose, mais la différence est moins aberrante. Cette différence est liée aux sponsors qui vont plus vers les hommes, mais aussi au fait que ce sont des sports beaucoup moins médiatisés du côté féminin. Heureusement, les sports comme le patin à glace, artistique ou pas, le tennis, l'athlétisme, le ski ou encore le surf sont égalitaires à ce niveau. Ceci est dû à une plus forte médiatisation ou au fait que, par exemple, pour l'athlétisme, les compétitions sont souvent mixtes, donc il y a autant de spectateurs.
Eh bien, merci beaucoup, Laure. Est-ce que vous auriez des choses à dire sur ce qu'elle vient de nous faire part ?
Moi, je suis vraiment atterrée par la différence de salaire entre un homme et une femme dans le football, parce que je savais qu'il y en avait une, mais autant ça m'afflige, parce qu'elle joue aussi bien que les hommes, et je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence aussi énorme.
Même plus, elle joue même des fois mieux que les hommes.
Oui, tout à fait.
Pour moi, même si c'est, je rebondis sur ce que dit Colombe, je suis tout à fait d'accord, et même si c'est pas que dans le sport qu'il y a ces inégalités salariales, je pense que si en dehors du sport, il y a énormément d'inégalités salariales, même si dans le sport, c'est extrêmement visé, comme l'a dit Laure, avec environ 1,30 de coefficient. Mais dans les salaires normaux, c'est plus sur les hommes qui gagnent plus que les femmes qui gagnent moins. Je crois que c'est les hommes qui gagnent 15 fois plus et les femmes qui gagnent normalement, entre guillemets, bien sûr. Entre guillemets, parce qu'elles ne gagnent pas normalement, puisqu'elles gagnent moins. Voilà.
Oui, mais là, je viens quand même de faire le calcul. Il y a quand même 47 000 euros de différence. Je trouve que c'est vraiment pas normal et qu'on devrait se battre pour que les femmes puissent gagner plus d'argent.
Oui.
Et puis, surtout, c'est lié à la médiatisation, donc ce que tu nous as présenté, simplement parce que les sponsors vont plus se tourner vers des sports qui vont être plus médiatisés et plus appréciés du grand public. Donc, on pourrait aussi se demander si les sponsors pourraient pas faire plus d'efforts pour aller vers les sports féminins.
Bah, moi, je sais que, par exemple, je préfère regarder du football féminin que du football masculin. Je trouve qu'il y a moins de surjeu et que c'est plus fluide. Et je préfère.
Mmh. Mais ça, il y a beaucoup de personnes, je pense, ils ne prennent même pas la peine d'aller voir quelle image pourrait avoir le sport féminin. Et des personnes qui vont aimer le foot masculin n'auront peut-être jamais vu de match féminin. Et donc, faudrait peut-être essayer de changer les mentalités et d'essayer de demander aux gens d'aller voir un peu plus que ce qu'il y a sous leur nez. Donc, pour continuer cet argent, pour faire des salaires, il faut bien le trouver quelque part. Et donc, Gabriel va nous expliquer d'où vient cet argent.
Alors, très bien. Alors, moi, je vais vous parler de d'où vient l'argent dans les salaires. Donc, je vais vous expliquer. Alors, dans le sport, il y a environ 5 façons de gagner de l'argent. Enfin, il y a une façon de gagner de l'argent, c'est de faire du sport, mais l'argent vient de 5 horizons différents. Alors, tout d'abord, il y a les investisseurs. Donc, ce sont des gens qui viennent donner, entre guillemets, de l'argent au club pour ensuite en recevoir. Donc, ils donnent de l'argent à ces clubs. Nous, par exemple, en Ligue 1, il y a 20 clubs en Ligue 1. Il y en a 17 qui n'ont pas d'investisseurs majeurs étrangers, alors que les 3 plus grands clubs de Ligue 1 en France sont d'investisseurs étrangers. Donc, par exemple, à Monaco, c'est une femme russe. Au Paris Saint-Germain, ce sont des Qataris. Et à Monaco, non, à Marseille, c'est la même chose. C'est un investisseur milliardaire majeur qui investit dans ce club. Ensuite, il y a les ventes des places. Donc, tout simplement, quand on va voir un match, quand on va assister à une cérémonie, voilà. Donc, tout ça, ça vient créer du profit auprès du club, tout simplement. Ensuite, il y a les droits TV. Voilà. Donc, tout ce qui est le fait que la télé paye tant. Souvent, c'est des sommes assez astronomiques, notamment 10 millions pour qu'un match passe sur sa chaîne, pour qu'une saison passe sur sa chaîne. Ça peut atteindre des fois des milliards. Voilà, c'est. Mais ça, je pense qu'on va y rebondir plus tard. Ensuite, il y a les revenus commerciaux, tout ce qui est autour des petites écharpes, des petits gobelets, toutes ces petites affections que tout le monde adore. que tout le monde adore, entre guillemets. Voilà, donc c'est toutes ces écharpes qui sont vendues des fois 20-10 euros, mais qui petit à petit créent des petits bénéfices. C'est une petite part, mais c'est une part qu'il ne faut pas négliger. Et enfin, il y a les primes. Les primes, c'est tout. Donc c'est le fait de réussir quelque chose et de recevoir plus. Donc par exemple, si jamais un club gagne une compétition, eh bien la compétition où des étrangers vont leur donner plus, vont leur donner une prime. Donc par exemple, imaginons que Laure, je te dise très bien, eh bien si jamais tu arrives à aller dans l'eau, je te passe 10 euros si tu vas dans l'eau, mais si tu vas 100 mètres au large, je te passe 15 euros. Donc si jamais tu vas au large, je vais te passer 15 euros, mais si tu vas dans l'eau, je vais te donner 10 euros. Donc, c'est à peu près cet exemple-là que sont les primes. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez appris quelque chose que vous ne connaissiez pas déjà avant ?
Bah, oui, moi, par exemple, je savais que les achats de maillots, d'écharpes, etc., je savais que ça apportait de l'argent, forcément, mais je ne savais pas que ça comptait directement dans le salaire des joueurs.
Et moi, j'ai trouvé que l'article de Gabriel était vraiment très détaillé et je me posais plein de questions. Et au final, il a très bien répondu, donc vraiment merci.
Eh bien, merci Gabriel. Donc, on continue sur l'article de Charlie qui va nous parler des droits TV.
Bon, bah, du coup, moi, je vais vous parler des droits TV dans le sport. Donc déjà, le Covid en ce moment, il détruit l'économie du foot. Et en ce moment, du coup, Mediapro va renégocier son contrat parce qu'il devait payer 172 millions d'euros à la Ligue de foot pro. Mais du coup, on ne sait pas s'il va payer plus ou moins. Et il y a même un homme d'affaires catalan, à votre avis, il a payé combien pour avoir les matchs de la saison de 2020 et 2021 ?
Alors moi... J'en ai aucune idée parce que dans les chiffres dans le sport sont aberrants, mais je dirais une grosse somme dans les centaines de millions peut-être.
Oui, c'est ça, il paye 800 millions d'euros pour avoir les matchs en 2020 et 2021.
C'est quand même un beau chiffre.
C'est vraiment énorme. Ouais.
Il renégocie aussi les droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2, et du coup tous les clubs hexagonaux sont dans des impasses financières. Et la valeur du droit TV pour une journée de Ligue 1, à votre avis, c'est combien ?
20 millions autour de ça, non ?
Ouais, c'est ça. Plus 15 millions.
Mais... C'est 20 millions, ouais. Voilà. Et justement, par exemple, RMC Sport, à votre avis, il paye combien pour un an pour la Ligue des Champions pour la rediffuser ?
Aucune idée.
Moi, je dirais. Je dirais plus que 200 millions. Voire plus.
Moi, je vais monter bien très haut, mais dans les 900 millions, 950 millions.
Non, quand même pas, c'est 300 millions, justement. Ouais. Et c'est comme les clubs sont financés à 60, voire 70% les clubs de foot par justement les droits TV. Et à votre avis, le rugby, c'est combien de pourcents ?
Je dirais 40-50%.
Non, je pense que c'est même pas.
C'est 22%. Ouais. Et pour les Jeux Olympiques de Londres, les droits TV ils atteignent des montants colossaux, 1,2 milliard pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012.
C'est énorme.
C'est énorme.
Ça fait beaucoup.
Beaucoup trop.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Charlie. Donc, vas-y, Gabriel.
Alors, moi, je voudrais rebondir sur le fait que ces sommes sont astronomiques et qu'avec ces sommes, on pourrait faire quelque chose de, je dirais, de plus humanitaire. Avec toutes les personnes dans le besoin, on pourrait, par exemple... par exemple, parce qu'on ne peut pas faire des trucs avec des exemples, mais je trouve que c'est quand même des énormes sommes qui peuvent être distribuées dans d'autres endroits, d'autres circonstances. C'est vraiment pour moi des gros chiffres inexplicables, entre parenthèses.
Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Gabriel, parce que en fait, c'est vraiment énormément d'argent pour du divertissement au final, que même pas. Enfin, que beaucoup de gens vont regarder, mais pas tous les gens. Alors que les missions humanitaires, en fait, c'est pour moi, c'est plus primordial que de regarder du football à la télévision.
Alors moi, j'aimerais rebondir sur un côté qu'on n'a pas encore fait. Ils ont parlé du sexisme, on a parlé de l'argent. J'ai envie de parler du sexisme et de l'argent. Donc, je vais vous demander, est-ce que vous saviez que dans le top 100 des sportifs les mieux payés au monde, sportifs et sportives, il n'y a aucune femme. Voilà. et que le sportif le mieux payé au monde, c'est un boxeur, et qui gagne. Cette année, il a gagné 285 millions de dollars, ce qui est énorme. Alors que la première femme, c'est Serena Williams, c'est une joueuse de tennis qui est célèbre dans le domaine. Elle ne figure même pas dans ce classement et elle gagne 18 millions de dollars, ce qui est 5 fois moins que Nicolas Batum, le basketteur français, qui est à la 100e place du classement. Voilà. Ce qui est absolument
disproportionné.
Faible. Voilà, c'est ça.
Bah, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est aberrant, scandaleux. Je ne pensais même pas que... Enfin, aussi... Un aussi grand écart, enfin... C'est... Je ne sais pas, il n'y a pas de mots.
Mais à ce moment-là, il aurait peut-être fallu essayer de comparer deux personnes qui jouent au même niveau, au même poste. Et Laure l'a déjà fait avec le foot. Et c'est vrai que on pourrait se dire que d'un sport à l'autre, ça pourrait changer. Mais sauf que du même sport et du même poste de la personne, suivant si c'est du sport féminin ou du sport masculin, ça change totalement. Donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est justifié. Donc, eh bien, merci, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, maintenant, nous allons continuer sur le micro-trottoir que nous avons tous réalisé en posant des questions à des personnes croisées. Un micro-trottoir réalisé dans l'enceinte de notre lycée. Donc, nous avons interrogé différentes personnes, donc des élèves, des professeurs, avec tous des avis différents et des connaissances différentes, eux aussi, elles aussi.
Pourriez-vous me citer trois sportifs masculins, s'il vous plaît ?
Zinedine Zidane, Florent Manodou et Michael Jordan.
Renaud Lavillani, Mbappé, Lilian Thuram.
On a Raphaël Nadal.
Mbappé.
Bah c'est tout.
Hein. Usain Bolt, Tony Parker, Cristiano Ronaldo.
David Douillet. On a Zinedine Zidane. Maradona, allez hop.
Et est-ce que maintenant vous pouvez me citer trois sportives ?
Allez, les sœurs Williams, ça en fait deux déjà. Et puis, Laure Manodou.
Laure Manodou, Amandine Henry, Amélie Mauresmo.
Ah, bizarrement, on en connaît moins.
Du coup, Gabriela Papadakis.
La fille qui faisait. Non, je
après, il y a les filles, elle s'appelle Simone, elle fait de la gymnastique, mais je vais voir.
Oui, Simone Bay. Bah non, non, pas du tout, non.
Je sais plus, mais en tout cas,
on est nuls.
Laure Manodou, Serena Williams, et il y en a une là, qui fait de la gymnastique qui est hyper connue. Elle a fait 73 questions de Vogue. J'ai oublié son nom. Bref, bah non, du coup, non.
Laure Manodou, Flessel, si ça vous parle. Et une troisième, j'ai un petit bug.
Et d'après vous, c'est normal de connaître moins de sportifs féminins que de sportifs masculins ?
Bah, c'est courant, mais c'est pas normal. C'est normal au sens de c'est la norme. Les sportifs féminines sont très invisibilisées.
D'après vous, est-ce que c'est normal de connaître aussi peu de sportives ?
Non.
Non, mais après, c'est dû à une médiatisation différente des sports. Malheureusement, les sports masculins sont davantage plus médiatisés que les sports féminins.
Non, c'est dommage parce que ça montre qu'on considère que le sport, bah, c'est plus pour les hommes que pour les femmes, et ce qui n'est pas normal.
C'est une très bonne question.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des sports pour garçons et des sports pour filles ?
Ah non, je pense pas.
Non. À partir du moment où les aptitudes physiques sont les mêmes, je vois pas pourquoi il y en aurait qui seraient pour un sexe et d'autres pour un autre.
A priori, non.
Non. Après, la société fait que pour les garçons, on va valoriser certains sports et pour les filles, on va valoriser d'autres sports.
Est-ce que vous trouvez ça normal que le capitaine de l'équipe de France de foot gagne 15 fois plus que le capitaine de l'équipe de France féminin ?
Non, mais justifiable.
Bah non, c'est le même poste.
Absolument pas.
Non, mais après ça c'est aussi une question de médiatisation. Comme le sport masculin est beaucoup plus médiatisé malheureusement avec la question des sponsors, de la publicité, du marketing, etc. On arrive à des différences de salaires qui sont colossales malheureusement.
Non, par contre je suis pas d'accord. Ouais.
Est-ce que vous trouvez ça normal que 30 secondes de pub lors de la finale du Coupe du Monde de football, ça coûte 280 000 euros ?
Oh non.
Non, c'est triste quand même, mais non.
Oui et non. En même temps, parce que c'est beaucoup suivi, donc c'est normal. En même temps, je me dis que ce serait bien qu'on mette cet argent-là dans des choses peut-être plus utiles.
Clairement pas. Non. Le foot, c'est comme si c'était un deuxième monde avec des prix ahurissants et trucs comme ça. Et quand on compare avec la vraie vie des gens qui gagnent au SMIC et tout, je trouve ça à la limite indécent qu'on prenne tout cet argent, que ce soit des entreprises privées ou publiques. Enfin, souvent c'est des entreprises privées, mais je pense qu'elles ont pas mal, hein, donc elles pourraient en partager un peu. Je trouve ça indécent qu'on puisse être à ces échelles d'argent quand à côté il y a des gens qui crèvent à moitié de faim, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays.
C'est énorme. Ils nous saoulent avec leur pub d'ailleurs. Hein, si j'ai un petit message à passer. Hein, c'est comme quand on est sur notre téléphone, tu fais 5 minutes, ils nous saoulent avec leur pub. Et en même temps, ça fait partie du principe de. Comment dire, la consommation.
Oui. Pour finir, quel sport pratiquez-vous et si oui, lequel?
La danse.
Alors moi, je fais de l'escalade.
Le ski, le volley.
Je fais du foot de temps en temps. J'ai fait du foot en club, mais j'ai arrêté. Je fais du foot avec des amis de temps en temps. Et sinon, je sais pas si ça compte, mais je bouge tout le temps en vélo.
Lui, je faisais de la course à pied.
D'accord.
La course. Mais non, je fais plus de sport. Le sport, c'est mes enfants.
Merci beaucoup. Merci pour tout.
C'est moi qui vous remercie.
Eh bien, on peut voir que certains avis sont bien différents, contrairement à d'autres, au niveau de s'il y a des sports pour les femmes et pour les hommes. Généralement, ils ont tous répondu la même chose. Donc, est-ce que vous auriez un petit commentaire à faire là-dessus ?
Eh bien, moi, j'ai été très agréablement surprise par le nombre de personnes qui connaissaient des sportives. Ouais. Parce que, honnêtement, je pensais qu'il y en aurait moins. Mais la plupart des gens ont su trouver au moins une personne.
C'est l'une des choses qui nous a le plus surpris, effectivement. Donc maintenant, nous allons continuer sur une petite pause musicale qui sera poursuivie par la partie 2, donc sur les jeux vidéo et les théories du complot, présentées par Colombe et animées avec Arthur, Elliot et Mathias.
Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement, j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui.
Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps où on se défie. Sont déroutantes les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant. Avant d'écrire le jour suivant, et volant de ville en ville, vivons-nous vraiment?
Après les filles d'aujourd'hui interprétées par Vianney et Just Jonathan, Nous nous retrouvons toujours sur Radio Cinéma pour la deuxième partie de l'émission Alpha et Omega, présentée par moi-même, Colombe. Et je suis maintenant en compagnie de Elliot, Mathias et Arthur. Comment allez-vous ?
Bien.
Très bien, merci.
Très bien, et vous ?
Moi, ça va super. J'espère que vous êtes prêts parce que nous allons parler des théories du complot avec Elliot. Donc toutes les théories qui sont en vogue actuellement, celles qui ont existé et qui se sont avérées vraies, et aussi comment est-ce qu'on peut créer une théorie du complot. Puis dans un second temps, nous parlerons des jeux vidéo, toutes les nouveautés avec Arthur, qui nous parlera également de tous les jeux vidéo cultes, et les concepts originaux des jeux vidéo par Mathias. Et après, nous aurons la chance de pouvoir écouter un micro-trottoir effectué dans l'enceinte du lycée la semaine dernière. Et puis nous clôturons cette émission peut-être par un débat si nous avons le temps. Les théories du complot, comment sont-elles créées ? Celles qui sont en vogue actuellement, et bien c'est à Elliot maintenant de nous expliquer tout ça, nous t'écoutons.
En effet, d'abord je vais dire qu'est-ce que c'est une théorie du complot, ou un complot en général, puisque c'est par là qu'il faut commencer, sinon on ne peut pas comprendre la suite. Alors un complot, c'est un projet secret élaboré par des gens contre une institution pour tromper des gens ou pour dominer un pays ou n'importe quoi d'autre. Dans l'histoire, il y a certains complots qui ont vraiment existé, certains qui sont restés en mémoire, et on va parler aussi de ceux qui, aujourd'hui, ceux qu'on parle le plus. On va commencer par les complots qui ont vraiment existé. Alors, en numéro 1, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé il y a 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Le 14 octobre 1990, c'est une femme qui témoigne devant le Congrès, et en pleurant, américain. Elle dit que les soldats irakiens qui sont arrivés au Koweït ont tué des bébés dans des maternités. Les gens pensent que c'est faux et que cette femme est une imposteur. Et la vérité, c'est qu'elle était effectivement une imposteur et c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. En 1939, pour justifier une attaque de la Finlande, l'armée soviétique va pas hésiter à bombarder une ville de Russie, donc c'est une ville qui leur appartient, qui est dans leur propre pays. Ils ont tué 4 personnes de leur propre armée pour attaquer par la suite la Finlande, donc le 30 novembre, soit 4 jours après. En ce moment, il y a beaucoup de théories qui circulent sur Internet. Les plus connus sont les platistes, qui expliquent que la Terre est plate. Il n'y a pas vraiment d'explication logique. Ils pensent que c'est ça, donc c'est ça. Ils n'ont pas vraiment trouvé de logique derrière, mais une personne a essayé de récolter des fonds pour construire une fusée et aller dans l'espace pour prouver à tout le monde que la Terre était plate. Résultat, sa fusée n'a pas très très bien marché et il est blessé. C'est dommage pour lui. Il y a aussi les chemtrails. Je ne sais pas prononcer l'anglais. Hein. C'est les petites fumées qui sont derrière les avions, qui sont en fait de la vapeur d'eau condensée. Mais certains pensent que c'est une fumée pour empoisonner les gens en dessous. Et il y a plusieurs raisons pour dire ça. Par exemple, ils veulent nous empoisonner pour nous faire tous mourir. Voilà. Ou nous faire penser des trucs, des hallucinations, etc. Celle qui existe depuis très longtemps et que vraiment beaucoup, beaucoup de gens pensent, 9% de la population du monde pense, c'est quand même beaucoup, 9%. Pour eux, les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. C'est un film. Donc Apollo 11 n'a jamais atterri sur la Lune. Et le producteur de cette mascarade est Stanley Kubrick. Évidemment, Stanley Kubrick n'a jamais démenti cette théorie. Ça veut dire que c'est vrai. C'est faux. Y a une des explications que les gens prennent beaucoup au mot. Et ils disent que le drapeau flotte sur la Lune. On dirait qu'il flotte, les photos que les Américains ont prises flottent. Sauf que bah, il n'y a pas de vent sur la Lune. Du coup, les personnes qui pensent que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune trouvent que c'est une preuve. Évidemment, c'est pas une preuve parce que les Américains ont pris un drapeau qui était déjà comme ça de base. Parce que s'il pend, c'est un peu nul, c'est un peu moche. Voilà. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce qu'on fait pour créer une théorie du complot. Quels sont les moyens pour, que les complotistes utilisent pour faire croire aux gens ce qui n'existe pas. Déjà, il y a l'explication millefeuille. Ça, c'est assez amusant. C'est beaucoup d'idées qui sont très bancales, qui sont pas logiques. Sauf que quand on les met tous ensemble, bah, ça marche très bien. Après, les complotistes s'appuient souvent sur des sources qui disent ce qu'ils doivent dire. Et voilà. Pour construire une théorie du complot, il faut d'abord dire qu'on va vous accuser du complot en disant si je dis ça, on va dire que c'est faux, mais c'est vrai. Après, il faut dire qu'on peut le vérifier, ce qu'on dit. Il faut dire aussi à qui profite le crime, qui est-ce qui profite de ce qu'on dit. Comme ça, ça montre qui sont les méchants dans l'histoire. Et il faut caresser les gens dans le sens du poil. Par exemple, le confinement, ça sert à rien, parce que les gens n'aiment pas le confinement. C'est une des techniques utilisées. Voilà, merci de m'avoir écouté et je donne tout de suite la parole à Colombe.
Merci à toi, Eliott, pour cette chronique très intéressante. Est-ce que vous voudriez rebondir sur certaines choses ? Moi, par exemple, j'ai été très choquée par le fait que la Russie ait attaqué quand même une ville de son propre pays. Je trouve ça complètement idiot. Est-ce que quelqu'un voudrait revenir sur autre chose ? Oui ?
Je trouve ça inimaginable que des personnes peuvent penser que la Terre puisse être plate.
Mais je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que ça a été démontré scientifiquement. Nous allons passer à la suite. Les jeux vidéo, toutes les nouveautés, les nouvelles consoles, les prochaines sorties, mais aussi également tous les jeux vidéo cultes qui ont marqué l'histoire. Arthur nous en parle tout de suite.
Du coup, je vais vous présenter les prochaines sorties. Un des jeux qui sort prochainement, c'est Spider-Man Miles Morales. Qui sort du coup le 12 novembre sur la plateforme PS4 et PS5. Après, le 13 novembre sortira Call of Duty Black Ops Cold War et Need for Speed Hot Pursuit remasterisé. Pour finir, Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre sur les plateformes PC, PS4 et Xbox. Maintenant, nous allons parler des jeux cultes. Selon les auditeurs du magazine Empire, The Legend of Zelda, The Ocarina of Time, Final Fantasy VII, GTA V, Red Dead Redemption sont des jeux cultes. Selon moi, Tekken, Assassin's Creed et Pokémon sont des jeux cultes car ils ont traversé l'histoire et que de nouvelles versions sortent encore maintenant. Je te laisse la parole, Colombe.
Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Oui, j'aimerais rebondir sur ce que les auditeurs ont dit sur le magazine Empire. Ils ont cité comme jeu culte Red Dead Redemption, et je ne suis pas hyper d'accord, parce que ce n'est pas très 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 récent. D'autres jeux ont été cités comme GTA V, et lui non plus, je ne le trouve pas si vieux que ça, ce qui, pour un jeu culte, être vieux, c'est très important. Du coup, je ne suis pas forcément d'accord.
Pour ma part, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eliott, parce qu'un jeu culte n'a pas besoin d'être forcément vieux si c'est un succès mondial ou qu'il a un concept original qui intéresse beaucoup les gens. Même si les jeux cultes les plus connus sont les jeux les plus anciens parce que c'était les premiers, il peut très bien y avoir des jeux cultes qui sont plus récents. Quelqu'un d'autre voudrait rebondir là-dessus ? Bon, en tout cas, moi j'ai hâte de pouvoir jouer à ces jeux vidéo, enfin quand je me serai acheté la PS5, on verra bien. Donc pour continuer, Mathias va nous présenter tous les jeux vidéo qui sont basés sur un concept plus original, on t'écoute.
Effectivement, je vais vous parler des concepts originaux dans les jeux. Donc, je vais citer quelques jeux. Par exemple, Prop Hunt, qui est un mode de jeu où il y a des chasseurs ayant des armes et des esprits qui peuvent prendre possession des objets pour se cacher. Les chasseurs doivent tuer les esprits en tirant sur les objets dans lesquels ils sont. Mais si jamais ils tirent sur des objets réels, ils perdent de la vie. Ça se joue par équipe. Et c'est très amusant à faire avec des amis. Le deuxième jeu est Lethal League Blaze, qui est un jeu où il faut battre ses adversaires. En les éliminant, il faut leur faire perdre de la vie en les touchant avec une balle qui ira de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on la frappe. Ça peut se jouer en 1v1, en équipe ou en chacun pour soi. Et voilà.
Merci beaucoup Mathias, c'était très intéressant. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ? Très bien. Est-ce que toi, tu as déjà joué à ces jeux, Mathias ?
Effectivement, j'y ai déjà joué.
Et t'as aimé ?
Ouais, je les trouve très intéressants.
Donc parmi ceux que tu nous as présentés, tu nous conseillerais en particulier ?
Tous.
Tous, d'accord. Bon, nous allons maintenant écouter le micro-trottoir qui a été réalisé par l'équipe la semaine dernière dans le lycée. C'est parti.
Jouez-vous aux jeux vidéo ?
Oui.
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 Un petit peu sur mon téléphone portable. Et j'ai un petit peu sur une tablette.
Oui.
De temps en temps.
Les jeux vidéo, c'est plutôt pour les filles ou pour les garçons ?
C'est pour tout le monde, suivant tes goûts, suivant ce que t'aimes.
Pour moi, ça peut être autant pour l'un que pour l'autre.
Okay.
Ouais, c'est ça. C'est pour tout le monde.
Ni l'un ni l'autre. Autant pour l'un que pour l'autre.
Non, pour moi, c'est tout le monde.
Je pense qu'à cause de la socialisation différenciée, les filles, enfin moi je sais que personnellement, instinctivement, j'ai moins l'instinct d'aller vers les jeux vidéo. Il faut vraiment que quelque part je me force et après, parce que je pense qu'on n'est pas, ouais, on n'est pas éduqués à aimer ça et les garçons beaucoup plus. Mais en soi, s'il n'y avait pas cette socialisation, je vois pas du tout la différence.
Quel est votre jeu vidéo préféré et pourquoi ?
Moi, je dirais Watch Dogs 2, parce que c'est un jeu en perpétuelle évolution.
Je n'en ai pas de préféré.
C'est pas le Crusader Kings 2. C'est peut-être parce que c'est un jeu de dynastie.
Minecraft, parce que j'aime bien le principe du jeu de construire et de développer une civilisation.
Alors moi je suis un passionné de foot donc je veux dire FIFA, mais j'aime beaucoup Assassin's Creed aussi.
Minecraft, parce que j'adore jouer pour m'étendre ou tenter une performance, mais ce que j'aime encore plus c'est jouer pour créer.
Citer un jeu culte.
Mario.
Pac-Man.
Mario.
Tetris.
Moi je dirais Pac-Man aussi.
Quel est le prochain jeu auquel vous aimeriez jouer et pourquoi ? Le jeu que vous attendez le plus ?
J'aimerais bien m'offrir un jeu de guerre parce que j'en ai aucun.
Je sais pas, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo.
Peut-être Cyberpunk 2077.
Ah bah je l'ai commandé, c'est Assassin's Creed. Parce que c'est sur les Vikings et j'aime beaucoup cette partie de l'histoire.
Aucun.
Okay. Watch Dogs 3 Légion, parce que il se passe à Londres et sur les vidéos que j'ai regardées, il paraît extrêmement intéressant. Tu peux jouer en fait tout plein de classes différentes. Et sinon, Assassin's Creed Valhalla. Parce que c'est sur les Vikings.
Quel est le jeu qui vous a le plus déçu et pourquoi ?
Mario Kart sur portable, parce que ça pompe la batterie max et c'est pas incroyable niveau graphisme.
Peut-être les Sims 4, parce qu'il faut acheter plein de DLC pour avoir une partie intéressante.
Alors moi, il n'y a pas de jeux qui m'ont franchement déçu. Parce qu'à chaque fois que j'ai joué à un jeu, j'ai toujours trouvé le jeu bien, où il y avait toujours un côté intéressant.
C'est les jeux qui rendent accro mes enfants, c'est ceux qui me déçoivent le plus.
Si, c'était un dernier Dynasty, mais c'était surtout au niveau graphique et l'histoire qui était pas terrible.
C'était un de mes premiers jeux que j'avais acheté, je devais vraiment être en 5e, c'était un Sony. Et genre vraiment, j'avais attendu ce jeu toute l'année, j'avais attendu d'économiser pour Noël et finalement j'ai joué une fois. Quoi. Donc, parce qu'en fait, le graphique il était nul et le jeu en lui-même aussi d'ailleurs. Donc, voilà.
Combien de temps jouez-vous par jour aux jeux vidéo, honnêtement ?
Au PC, une heure, et je peux jouer un petit peu sur le téléphone, mais je fais pas que jouer.
On va mettre une minute par jour lycée sur l'année.
Bon, une petite heure, je pense. Bon, pas petite, une heure, on va dire.
J'y joue pas tous les jours, ouais, et je dirais des fois une ou deux heures le week-end.
Et si je compte les jeux sur téléphone, je dirais 2 heures.
Ouais, moi peut-être même un peu plus.
Ok, d'accord.
Quel serait le temps maximum de jeu quotidien ?
On aurait déjà 1h30, 2 heures, c'est déjà pas mal, hein.
40 minutes.
Parce qu'en fait...
Je sais pas, 5-6 heures de jeu.
Moi, je dirais qu'il faut du temps pour tout. Et qu'il faut pas passer trop de temps sur les jeux.
Je dirais qu'une heure par jour, c'est déjà pas mal.
Selon vous,
peut-on considérer le jeu vidéo comme une forme d'art?
C'est un art.
D'accord.
Bah, par exemple, Watch Dogs, en général, ça permet vraiment d'avoir une vision différente de notre société, ça permet de voir plein de choses, ça permet... Et puis le jeu est magnifique.
Bah oui, évidemment, enfin, je sais pas, il y a quasiment tout dans notre vie, c'est de l'art, donc les jeux vidéo, ça en fait partie.
D'accord.
Oui, bien sûr, il y a plein de jeux vidéo qui sont vraiment artistiques, par exemple des jeux d'horreur qui sont déjà très beaux, mais qui ont des vrais scénarios, des vraies histoires, etc.
Certains jeux vidéo, oui.
Ah bah oui, parce qu'il y a déjà tout ce qui est partie graphique. Et je dirais qu'aussi, il y a toute la conception des dialogues, des scénarios, qui, voilà, maintenant, vraiment, il y en a certains que j'ai pu faire. Tu crois vraiment que tu regardes un film, quoi.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Bien, est-ce que quelqu'un voudrait réagir, nous dire comment il a vécu ce micro-trottoir, ce que tu as apporté?
Personnellement, j'ai trouvé l'expérience assez amusante de poser des questions à des gens et qu'ils nous répondent franchement.
Je trouve que les réponses étaient variées et intéressantes.
Bon, bah, maintenant, pour terminer cette émission, je vous propose le temps d'un petit débat sur comment définir si on est accro ou pas aux jeux vidéo, que ce soit sur téléphone portable, sur PC ou sur console.
Tout d'abord, je voudrais commencer par dire que ça fait depuis seulement 2 ans que le jeu vidéo est considéré comme vraiment qu'on peut vraiment devenir accro du point de vue scientifique.
Bah, je suis d'accord avec Eliott, mais en fait, moi, je trouve que être accro, ça peut se définir dans la mesure où on ne sait plus faire autre chose que d'être sur un ordinateur. On prend plus le temps d'imaginer, de créer, parce que en final, il y a plein de choses qu'on peut faire sans les écrans. Et que je trouve que du coup, les jeux vidéo, c'est bien un petit peu, mais qu'il ne faut pas en faire tout le temps, parce que sinon, on en oublie ce que c'est de vivre. Bon, bah, très bien, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission, donc tous les chroniqueurs, Eliott, Gabriel, Arthur, Agathe, Mathis, Charlie, Laure et moi-même. Je voudrais remercier plus particulièrement Gabriel, notre ingé son, qui s'est occupé de tous les montages, notamment des micro-trottoirs et de l'émission. Et je voudrais remercier également tous les administrateurs du projet Sigma, et en particulier Virginie qui nous a accompagnés sur ce projet. Et à bientôt pour une prochaine émission.